La loi est le cinquième commandement, étude numéro 258. Il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le cinquième commandement est le premier commandement avec une promesse et forme la base de la société. C'est le premier de la séquence des commandements qui forme le deuxième grand commandement, à savoir aimer son prochain comme soi-même. Le cinquième commandement est exposé dans Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Nous lisons dans Exode chapitre 20 à partir du verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Version 8 secondes. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5 verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Version 8 secondes. Le cinquième commandement est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement ou le point de départ pour le deuxième grand commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 18 à 19. « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Version Louis II. Comme tous les commandements, il est renforcé par le Nouveau Testament. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Version Louis II. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 3, verset 20, « Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Version Louis II. La famille en tant que base de la société. La création a été basée autour de la famille depuis le Jardin d'Éden. Consultez l'étude « La doctrine du péché originel » partie 1, « Le Jardin d'Éden », étude numéro 246, ainsi que l'étude « La doctrine du péché originel » partie 2, « Les générations d'Adam », étude numéro 248. La famille forme le matériau de construction principal de la société. La famille humaine a été créée à l'image de Dieu. Elle a été destinée à multiplier et à élargir l'image de Dieu et à devenir un temple pour Dieu. Comparez Genèse 1, versets 27 à 30, Genèse 2, versets 7 et verset 18. Le père est la force de la famille, de même que l'est la mère. Elle a une responsabilité égale et importante dans le fonctionnement interne de la famille, comme nous le voyons dans Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31. Le père est aussi responsable du fonctionnement de la famille en rapport avec la société. Le but de Proverbes chapitre 31 est de montrer la fonction régulière et ordonnée de la famille et de la société en rapport avec la structure spirituelle de l'Église. Comme la mère est pour le Père, il en est de même pour l'Église à Christ et les deux pour Dieu. Comparez aussi l'étude Proverbes chapitre 31, étude numéro 114. La famille a aussi une responsabilité étendue sous la loi, qui ne doit pas être abdiquée ou négligée. C'est pourquoi le signe d'esclavage, qui consiste en un trou dans l'oreille, est un défaut de la société. Voir Exode 21, verset 6. De la même manière, le chef de famille a des responsabilités sous la loi. Voir Exode 22, verset 8. Dans tout cela, nous sommes les enfants du Très-Haut et fils de Dieu. N'est-il pas écrit « J'ai dit vous êtes des dieux, les enfants du Très-Haut, vous tous, et les Écritures ne peuvent pas être anéanties » Psaume 82, verset 1 à 6, voir Jean 10, verset 35. Nous lisons dans Psaume 82, verset 1 à 6. Psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Version 8 secondes. La structure entière est comme une famille de fils de Dieu, à la fois spirituelle et physique. Toute la création est soumise à l'homme en tant qu'une famille, à l'intérieur du plan de Dieu. Voir Genèse 1, verset 28. Ainsi aussi, il y a un ordre dans la famille, comme il y en a dans la famille de Dieu. Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Version 8 secondes. La désobéissance aux parents a aussi sa promesse. Nous lisons dans Proverbes chapitre 30, verset 17, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Version 8 secondes. La famille devient la base de la société. La société, en tant qu'ordre, est fondée sur la famille à travers la grâce et l'apparence que Dieu nous a envoyée en son image, à savoir son Fils Jésus-Christ. Nous lisons dans Tite, chapitre 2, versets 1 à 15. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Version 8 secondes. De cette façon, les parents doivent accumuler des biens et pourvoir aux besoins de leurs enfants en regardant vers l'avenir, non vers le passé. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Version de Louis II. En ceci, il n'y a seulement qu'un héritage du premier-né dans la famille, indépendamment du nombre de femmes. Voir Deutéronome 21, versets 15 à 17. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 21, versets 15 à 17. « Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais s'il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. » Version Louis II. Aussi, les enfants ont des responsabilités envers leurs parents et sont sujets à la peine de mort, voir Deutéronome 21, versets 18 à 21. Ce pouvoir de peine de mort est conféré aux parents et alors à l'État à travers les anciens et s'étend ensuite à tout le peuple. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 23. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Version Louis II. Nous voyons maintenant que la base de la société est la famille, et la famille est le matériau dont la nation est faite. Toute la discipline de la société est conférée à la famille en tant que l'unité primaire, ainsi que le droit de corriger et doter la vie provenant d'eux est conféré à la famille. Nos parents nous ont donné la vie par mariage et procréation, participant ainsi à la création par l'intermédiaire du pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Le commandement d'être saint. De là, la famille exerce d'une façon physique la responsabilité de Dieu au niveau spirituel. Nous n'avons qu'un seul Père. Nous lisons dans Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Version Louis II. Dieu nous a créés. Et par sa volonté, nous existons et avons été faits. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Version Louis II. Notez que tous les textes disent « ils régneront sur la terre ». Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ont une même origine. Nous lisons dans Hébreux chapitre 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Version Louis II. Nous ne devons appeler aucun homme père, car notre Père est Dieu seul dans le ciel, et il est notre Dieu et Père, est le Dieu et le Père de Jésus-Christ qui l'a envoyé. Nous lisons dans Matthieu chapitre 23, verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Version Louis II. Lui seul est l'objet de notre dévotion et de notre prière. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 1 à 15. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Version Louis II. La relation avec le Père constitue le but primordial, mais c'est seulement à travers le deuxième grand commandement que nous pouvons comprendre le but du premier grand commandement, à savoir l'amour envers Dieu. Donc, vous devez être saint, et toutes vos actions doivent être saintes, de ce que vous consommez jusqu'à ce que vous produisez. Nous lisons dans Exode chapitre 22, verset 31. « Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. » Version Louis II. Nous lisons dans Lévitique chapitre 11, verset 44. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Version Louis II. L'individu est saint et il ne doit pas être maculé, parce que c'est Dieu qui nous a rachetés pour que nous soyons saints. Nous lisons dans Lévitique chapitre 11, verset 45, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. » Version Louis II. Nous lisons dans Lévitique chapitre 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » Version Louis II. Le but de la création de l'humanité. La famille sainte. Comme Israël est sainte, ainsi la famille est sainte. La nation est de Dieu, et le royaume est établi pour Christ, dans la lignée de David pour toujours. Nous sommes de cette maisonnée, en tant qu'une famille, et cette famille est gouvernée par des juges sous la maison de David, qui est du Messie, et le sacerdoce de Melchisédek. Car mon roi est la justice, entre parenthèses Melchisédek, ou mon seigneur est la justice, entre parenthèses Adonitsédek, et le titre héréditaire du roi de Jérusalem pour toujours. Comparez Genèse 14, verset 18, Psaume 110, verset 4, Josué 10, verset 1, ainsi que l'œuvre de G. Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, sur Melchisédek et sa signification. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 7 verset 10 à 16. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Version 8 secondes. Le Messie a donc reçu la paternité des enfants des hommes en tant que les fils de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9 verset 6 à 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Version 8 secondes. Il sera appelé le Fils de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Luc chapitre 1, versets 32 à 35. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Version 8 secondes. Avec lui, la justice est établie pour la famille des hommes, voir Ésaïe 11, versets 4 à 5, comme partie de la progéniture d'Abraham, voir Galates 3, verset 6, verset 9. Il a été désigné l'héritier de toutes choses, ayant été envoyé pour parler aux hommes, voir Hébreux 1, verset 1 à 2, et il confirmera l'immutabilité de son conseil par un serment, voir Hébreux 6, verset 17. C'est par la foi que nous avons été avertis au sujet de Dieu à travers Noé dans les premières générations pour le salut de la maison de Dieu et par le Fils dans les deuxièmes générations d'Adam et par la foi, nous suivons son conseil. Voir Hébreux 11, verset 7. Si nous appartenons à Christ par la foi, alors nous sommes de la descendance d'Abraham et sommes héritiers conformément à la promesse. Voir Galates 3, verset 16, verset 29, étant en même temps fils d'Adam et fils de Dieu. Voir Luc 3, verset 38. Du premier Adam, nous portons l'image terrestre. Du second Adam, nous portons l'image céleste. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Version 8 secondes. Comparez Matthieu, chapitre 28, verset 18. Ézéchiel 21, verset 27. Sa famille est notre famille parce que nous faisons la volonté de Dieu, voir Jean 19, verset 25 à 27. Donc la famille aussi est à deux niveaux, la famille physique ou terrestre et la famille spirituelle ou céleste. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère, et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Version 8 secondes. De là, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais fils de la vraie lignée, et par conséquent des héritiers. Voir Genèse 21, verset 10, Genèse 25, verset 1 à 6. Cette distinction consiste en la lignée de la foi, dans l'héritage de Dieu établi dans la loi, comme une distinction pour séparer les infidèles. Nous lisons dans Lévitique chapitre 25, verset 45 à 46. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Version 8 secondes. Par conséquent, l'établissement physique de la nation précède le spirituel, et la distinction est établie pour montrer que c'est seulement par le salut et l'entrée dans la nation que tous les hommes entreront dans la vie éternelle. Afin que nous puissions y arriver, une période de formation est mise en place sous le Messie et le nouveau sacerdoce, comparé à Apocalypse 20, verset 1 à 9. En ce jour-là, nous serons comme des dieux Elohim, comme l'ange de Yahovah à notre tête, et sa postérité sera établie pour toujours. Voir Psaume 89, verset 4. Nous lisons dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Version 8 secondes. Après la seconde résurrection, et la période de formation de tous les êtres, voir Ésaïe 65, verset 20, nous irons tous, chaque être, à notre destination finale. Dieu deviendra alors tout en tous, et nous serons la demeure de Dieu, en tant que le temple de Dieu pour toujours. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. » Version 8 secondes. C'est le résultat final de ce que Dieu devait devenir. Voir Exode 3, verset 14. La sanctification et la pureté. Dans ce processus, nous devons être sanctifiés et purifiés. Il existe une législation étendue sur le sujet qui concerne la propreté des gens et de la planète et de son environnement. Les lois de l'alimentation sont trouvées dans Lévitique chapitre 11, verset 1 à 47, et Deutéronome chapitre 14, versets 1 à 21. Comparez l'étude des lois de l'alimentation, étude numéro 15. La nation et le peuple ont été sanctifiés et mis à part pour que Dieu puisse venir à eux. Cependant, il a établi des bornes pour la nation physique et lui a parlé par l'intermédiaire de l'ange de Yahovah. Ces bornes ont été énumérées dans Exode chapitre 19, versets 10 à 25, dont le texte devrait être entièrement lu dans la septième année. Ces limites représentaient la façon dont Dieu agirait par l'intermédiaire de la nation et ensuite par l'intermédiaire de l'Église. La loi a d'abord été donnée aux 70 et ensuite à la nation. Le peuple a été sanctifié en premier et ce processus de sanctification est entrepris annuellement par l'Église et la nation à partir du premier jour de l'année sacrée et ce processus continue jusqu'au septième jour du premier mois, où les simples et ceux qui sont dans l'erreur sont sanctifiés. Comparez les études de la sanctification du temple de Dieu, étude numéro 241, et les fêtes de Dieu en rapport avec la création, étude numéro 227. Cette distinction a été faite pour montrer à la nation qu'il y avait un processus distinct par lequel ils pouvaient s'approcher de Dieu. Le Messie a établi ce processus dans l'Église, à travers le baptême de l'Esprit-Saint. Ainsi, la sanctification est une partie du processus de faire de soi-même un réceptacle saint pour le Dieu vivant. Nous lisons dans Lévitique chapitre 20, verset 7. « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Version 8 secondes. L'établissement de l'autorité. Dieu a établi son autorité sur la terre par l'intermédiaire des dirigeants qu'il a nommés. Dieu a parlé à travers des intermédiaires, à ses serviteurs les prophètes, voir Amos 3, verset 7. Cette activité est alors faite en séquence d'autorité à partir des prophètes de Dieu aux dirigeants de la nation aussi. Nous lisons dans Exode chapitre 4, verset 11 à 23. L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en madian « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Version 8 secondes. Dieu détermine les dirigeants d'Israël. Nous lisons dans Nombre chapitre 27, versets 12 à 23. L'Éternel dit à Moïse « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre par le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. » Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim, devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Version 8 secondes. Donc le sacrificateur de l'Urim et du Thummim se tient au conseil devant le Seigneur avec le dirigeant d'Israël. Le dirigeant, en tant que roi, est déterminé conformément aux coutumes des nations. Christ est non, l'homme est roi. Néanmoins, Dieu a établi ce rôle sous la loi. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs et lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Version 8 secondes. Seule une personne des tribus d'Israël peut gouverner sur Israël. Le roi est astreint aux lois de Dieu et à ses ordonnances à l'intérieur de ses lois. L'alliance de la circoncision reposait sur Israël et les prophètes devaient exiger son exécution, mettant en jeu leur propre vie. Nous lisons dans Exode chapitre 4, versets 25 à 28. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert au-devant de Moïse ». Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Version 8 secondes. L'alliance de la circoncision pointait vers l'alliance du cœur dans l'Esprit Saint. Ainsi, la circoncision n'était pas requise des païens lors de leur conversion. Moïse avait des lèvres incirconcises, voir Exode 6, verset 30, mais il a été guéri et a été fait un Elohim pour Pharaon, voir Exode 7, verset 1, comparer les études de la loi et le premier commandement, étude numéro 253, et la loi et le deuxième commandement, étude numéro 254. Cette circoncision de la famille, donnée par Abraham et rétablie par Moïse et Josué, comparé Josué 5, verset 8, Jean 7, verset 22, pointée vers la circoncision de l'Esprit Saint et la responsabilité des élus, comparé Acte 7, verset 8, Acte 10, verset 45, Acte 11, verset 2. Les païens étaient épargnés de l'exigence de se faire circoncire lorsqu'ils se joignaient à la congrégation d'Israël dans l'Esprit Saint. Car selon la loi la plus haute, ce ne sont pas tous les circoncis qui sont d'Israël, ni tous les incirconcis qui sont exclus de l'alliance de la paternité de Dieu. Nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Version 8 secondes. En ce temps-là, Moïse a rassemblé les anciens, et Moïse et Aaron leur ont parlé, voir Exode 4, versets 29 à 31, où nous lisons. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Version 8 secondes. L'autorité de la nation est la façon dont Dieu aussi traite avec sa famille élargie en ordre. Nous lisons dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatseroth et il campa dans le désert de Paran. Version puis second. Le droit d'exercer l'autorité vient de Dieu. C'est pourquoi la rébellion est égale à la sorcellerie, puisque la rébellion établit une volonté en opposition à la volonté de Dieu et de là et du polythéisme. Voir 1 Samuel 15, verset 23. L'exercice de l'autorité. Même celui qui avait été oint par Dieu était assujetti aux lois du cinquième commandement et de sa relation avec la famille par le mariage. L'approche parentée de Moïse était liée pareillement. Ainsi aussi la sagesse est venue par l'intermédiaire d'un autre sacrificateur ou prophète. Dans Exode chapitre 18, nous voyons que Moïse avait confié sa femme et ses fils à son beau-père qu'il respectait. Jéthro était aussi sacrificateur de Madian. Il a rendu la famille de Moïse et lui a conseillé sur la façon de juger Israël et son système de justice et de contrôle. Nous lisons dans Exode, chapitre 18, versets 1 à 27. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a pris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées, Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit : Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ? Moïse répondit à son beau-père : C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs de peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays. Moïse devait agir envers Dieu en tant qu'un médiateur, et des hommes libres de corruption et incorruptibles devaient être choisis pour être chefs de 10, de 50, de 100 et de 1000. Ces hommes sont devenus juges en Israël. Les affaires plus compliquées étaient remises aux autorités supérieures. De cette structure, les familles étaient réparties en dizaines, et ensuite en cinquantaines, puis en centaines, puis en milliers, et de là, aux capitaines de dizaines de milliers et des tribus. Les divisions sont de 28 000 personnes. À partir des tribus, nous avons alors les 70 en tant que le conseil des Elohim de justice. Ainsi, la famille est devenue une nation, qui à son tour est devenue une famille de nations, tout en ordre et sous l'autorité qui provient de Dieu et de sa loi. Sous son autorité, nous agissons en son nom, et nous obéissons alors au troisième commandement, à la suite des premiers et deuxièmes commandements. En tant que des fils du seul vrai Dieu, nous devenons un vrai peuple, qui à son tour est destiné à devenir des dieux comme Elohim, en qui Elohim est tout en tous. Nous sommes donc le temple de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Version 8 secondes. Nous sommes tous appelés à être fils du Dieu vivant, voir Osée 1 verset 10. Elohim s'étend lui-même pour devenir Elohim en tant qu'être étendu. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 6 verset 13 « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Version 8 secondes. Le nom de Dieu est une extension de son autorité parmi son peuple, aussi bien spirituel que physique. Par conséquent, le terme Elohim s'applique à l'armée céleste et aux juges, et dirigeant de la nation physique d'Israël. Voir Exode chapitre 22, verset 28. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 16, verset 18 à 20. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives, que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Version 8 secondes. Il doit y avoir la justice dans tous nos jugements, car la justice est droiture. Les anges de Dieu sont tous appelés Yahovah lorsqu'ils agissent en son nom. Comparez Genèse 18, verset 3, verset 27. Ce terme s'applique à une multitude d'êtres au pluriel, partout dans tout le chapitre 19 de Genèse, par exemple. Yahovah était aussi utilisé pour les deux autres anges qui sont venus avec le troisième être appelé Yahovah. Ce dernier est demeuré avec Abraham et les deux autres sont allés rencontrer Lot à Sodome où ils ont de nouveau été référés en tant que Yahovah. Comparez l'étude l'ange de YHVH, étude numéro 24. À partir de l'époque du fils d'Adam, Seth, les hommes ont commencé à invoquer le nom de Yahovah. Voir Genèse 4, verset 26. Nous voyons qu'à partir du troisième commandement, nous procédons alors au quatrième en tant qu'une démarcation de sainteté en temps aussi bien que d'autorité. Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Version 8 secondes. Du premier grand commandement, nous voyons que le cinquième est alors relié aux quatre premiers commandements et découle de ces derniers. L'autorité de la décision du pouvoir d'agir est donnée à une personne et non deux. Il en est ainsi avec Dieu et l'armée où tous agissent sous la volonté du seul vrai Dieu. Voir Jean 17, verset 3. C'est pourquoi Christ ne peut rien faire de sa propre initiative. Voir Jean 5, verset 30. Cette compréhension est importante à la structure de l'armée, tant physique que spirituelle. Cela est aussi reflété dans les relations familiales. Lorsqu'il y a un conflit, le serment de la femme ne peut pas lier la famille, et la volonté du mari peut être utilisée pour briser le serment, quand cela va à l'encontre des intérêts de la famille. De la même manière, la volonté de Dieu domine parmi l'armée. Nous voyons cette loi dans Nombre 30, versets 1 à 16, qui est exigée d'être lue dans la septième année ou année de sabbat. Le mari de la femme, ou son père, si elle n'est pas encore mariée, peut annuler le serment de la femme. S'il ne dit rien le jour qu'il en prend connaissance, le serment reste alors en force ou lié. S'il l'annule, il n'est plus valable. Il n'y a que les serments de la veuve, faits après la mort de son mari, qui ne peuvent pas être annulés. Ainsi, une femme est sujette à son mari et est prise de sa famille. Elle est donnée à la famille du mari. Cela représente les élus en tant que l'Église qui sont pris de la tribu du parent et placés dans la tribu du mari, sous une seule famille, sujette au seul vrai Dieu. Comme le chef de la femme est l'homme, ainsi le chef de l'Église est Christ, sous le Père. Le chef de la femme est l'homme, entre parenthèses au sein de la famille, et le chef de chaque homme est le Messie, et le chef du Christ, oint, est Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Version 8 secondes. La famille physique existe jusqu'à la mort, mais la famille spirituelle est éternelle. Ou nous ne nous marions pas, ni nous ne sommes donnés en mariage, mais sommes égaux, au et en tant qu'un ordre de anges. Voir Luc 20, verset 34 à 35. Comme des Elohim, voir Zacharie 12, verset 8, de même que l'est le Messie, les anges sont nos frères. Comparez Psaume 22, verset 22, Apocalypse 3, verset 5, Matthieu 10, verset 32, Matthieu 6, verset 11, Matthieu chapitre 12, verset 10. La famille comme la tribu en Israël. Les familles sont organisées en tribus, et de plus à l'intérieur de regroupements de tribus. Cela est inscrit dans Nombre chapitre 2. Nous lisons dans Nombre chapitre 2, versets 1 à 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Les enfants d'Israël camperont, chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Juda, Nakshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nephtanéel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement, puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Elitsur, fils de Skedéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shkelumiel, fils de Tsurish-Kadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils d'Eluel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites, placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Elishkama, fils d'Amihud, et son corps d'armée, composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pedachur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 000 et 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Amishkadai, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Asser, le prince des fils d'Asser, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Ena, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Les 12 tribus sont divisées en 4 groupes de 3 tribus. Ces groupes ont aussi une signification pour la réorganisation. La Bible affirme que les tribus furent dénombrées et enregistrées. L'héritage de la tribu était établi en fonction de sa grosseur, c'est-à-dire du nombre d'hommes en âge de faire la guerre, soit de 20 ans et plus. Nous lisons dans Nombre, chapitre 26, versets 1 à 62. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Hénoch, de qui descend la famille des Hénochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Eshtron, de qui descend la famille des Eshtronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Datan et Abiram. C'est ce Datan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel, descend la famille des Nemuélites, de Jamin, la famille des Jamanites, de Jakin, la famille des Jakinites, de Zérach, la famille des Zérachites, de Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, de Tsephon descend la famille des Tsephonites, de Hagi, la famille des Hagites, de Skuni, la famille des Skunites, d'Ozni, la famille des Oznites, d'Eri, la famille des Érites, d'Arod, la famille des Arodites, d'Aréeli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Judas, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Shkéla descendent de la famille des Shkélanites. De Péré, la famille des Pérétsites. De Zérach, la famille des Zérachites. Les fils de Péré furent Hétron, de qui descend la famille des Hétronites. Hamul, de qui descend la famille des Hamulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issacar, selon leur famille, de Tola, descend la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Shakub, la famille des Shakubites, de Shkimron, la famille des Shkimronites. Ce sont là les familles d'Issacar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille, de Zéred descend la famille des Zardites, d'Élon, la famille des Élonites, de Jaël-El, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad, Jérez, de qui descend la famille des Jézérites. Hélek, la famille des Hélékites. Asriel, la famille des Asriélites. Shichem, la famille de Shikémites. Shkemida, la famille de Shkemidaïtes. Hefer, la famille de Hefrites. Tselophchad, fils de Hepter, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselophchad: Makla, Noah, Ogla, Milka et Sirtsa. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Skutélak descend la famille des Skutélachites. De Béker, la famille des Bakrites. De Tchatchan, la famille des Tchatchanites. Voici les fils de Skutélak. D'Éran est descendu la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Fils de Benjamin selon leur famille, de Béla descend la famille des Balites, d'Ashkribel la famille des Ashkribelites, d'Ashiram la famille des Ashiramites, de Shkufam la famille des Shkufamites, de Hupham la famille des Huphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naama. D'Ard descend la famille des Ardites, de Naama la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille, et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille, des Shkushkam. Descend la famille des Shkushkamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shkushkamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille, de Jimna descend la famille des Jimnites, de Shikvi, la famille des Jivskivites, de Beria, la famille des Bérites. Des fils de Beria descendent de Héber, la famille des Hébrites, de Malkiel, la famille des Malkielites. Le nom de la fille d'Azer était Shirak. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille, de Jatseel descend la famille des Jatseelites, de Guini, la famille des Guinites, de Zetzer, la famille des Itzirites, de Shkilem, la famille des Shkimlémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement. 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites, de Kehat la famille des Kehatites, de Merari la famille des Méranites. Voici les familles de Lévi, la famille de Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Maklites, la famille des Mishkites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, à Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Version Louis II. Les terres devaient être réparties par le sort ou scrutin, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Ainsi, le jubilé implique une redistribution par scrutin. De tous ceux qui ont été dénombrés au Sinaï, ne sont restés au dénombrement dans les plaines de Moab que Caleb, le fils de Jéphuné, et Josué, le fils de Nun. Car le Seigneur a dit que tous les autres mourraient sûrement dans le désert. Nous lisons dans Nombre chapitre 26, versets 63 à 65, « Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. » Version Louis II. Ceci devait pointer vers ceux qui n'ont pas voulu entrer dans la terre promise du baptême dans l'Esprit Saint pendant les 40 jubilés dans le désert, de la mort du Messie jusqu'au second avènement. Ceux qui ne se sont pas repentis et n'ont pas accepté le baptême ne sont pas entrés dans Israël et l'héritage de Dieu. Ils sont morts dans le désert. Quoique qu'ils faisaient partie des tribus, ces gens n'entreront pas dans la famille de Dieu avant la deuxième résurrection. L'obéissance à la loi. La nation est établie en ordre par famille. Nous lisons dans Nombre chapitre 2, verset 34. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Version Louis II. L'expiation par un sacrifice de sang est faite selon le nombre de maisons par famille. Nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Version Louis II. Par l'obéissance aux lois de Dieu, les familles et la nation sont protégées. Aucune nation n'est permise d'être idolâtre, et la nation d'Israël est cruciale dans cette loi. Par celle-ci, les familles sont protégées, tant celles des hommes que celles des animaux. Voir Exode 23, versets 24 à 26. Nous lisons dans Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Version Louis II. La punition pour l'idolâtrie et la captivité et la destruction de la progéniture et de la nation. Comparé à Amos 5, versets 25 à 27, aussi la loi et le deuxième commandement, étude numéro 254. La loi est enseignée au sein des familles et observée dès l'enfance. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, verset 46. Il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. » Version Louis II. La vie de l'individu au sein de la famille et de la nation est prolongée de ce fait. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 32, verset 47. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Version Louis II. C'est le thème central de la loi et des prophètes. La loi ne peut pas être interprétée par la tradition, voire Marc 7, verset 10 à 13, mais selon la parole écrite de Dieu, dite par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Limitation de l'autorité de l'homme. Tout pouvoir et autorité, y compris ceux du Messie, étaient et sont de Dieu, de même que le sont la sagesse et la compréhension. Comparez Matthieu 21, verset 23, Psaume 62, verset 11. Nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Version Louis II. Le Très-Haut donne l'autorité à celui qu'il veut. Voir Daniel 4, verset 25. Elle peut être donnée aux païens, ou l'armée déchue, ou au Fils de Dieu, voir Deutéronome 32, verset 8. Par conséquent, chacun doit obéir à l'autorité légale en place. Voir Romains, chapitre 13, verset 1 à 5. Dieu doit être obéi en toutes choses, et lorsque les décrets humains transgressent les décrets de Dieu, alors Dieu doit être obéi. Nous lisons dans Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Version Louis II. L'obéissance à Dieu en tant que notre Père et l'obéissance à sa loi. Voir Deutéronome 28, verset 58 à 59. Lorsque l'autorité de Dieu est déléguée aux hommes et lorsqu'il est donné à un roi de nous gouverner, alors cette autorité ne peut pas être donnée à un étranger. Comparez Deutéronome 17, verset 14 à 20, ci-dessus. Aucune personne n'est adaptée à gouverner, à moins qu'elle ne se conforme à la loi de Dieu. Sa progéniture est également sujette à cette obéissance. Les instructions et les conseils de la famille doivent être recherchés. Voir Proverbe 23, verset 22, verset 25. La famille doit aussi donner la correction tôt et doit être appropriée. La discipline est la responsabilité de la famille, et ce n'est pas faire preuve de gentillesse de retenir au temps opportun le châtiment corporel avec une verge de correction. voir Proverbe 13, verset 24, Proverbe 19, verset 18, Proverbe 23, verset 13 à 16, Proverbe 22, verset 15. La capacité d'apprendre par la correction est une marque de sagesse. Voir Proverbe 15, verset 32, verset 33. Nous lisons dans Proverbe 15, verset 32 à 33. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Version Louis II. Nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Version Louis II. La correction administrée dans le but de former les jeunes sera récompensée plus tard par une conduite correcte. L'échec de former et de corriger les jeunes verra une société détruite. Le problème fondamental dans nos sociétés est fondé sur le manque d'instruction biblique et de discipline dans les premières années et sur la capacité des jeunes découlant de leur éducation. Nous lisons dans Proverbe 22, verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Version Louis II. L'éducation des jeunes ne peut pas être déléguée à d'autres avec succès. C'est la responsabilité des parents d'assurer l'instruction et de discipliner leurs enfants. Quand cette responsabilité est enlevée ou relâchée, la société commence à se désintégrer. Nous lisons dans Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. Version Louis II. C'est pourquoi le divorce est si néfaste, parce qu'il sépare les familles et enlève l'influence sur les jeunes du système de gouvernement de Dieu. Ce système de correction s'étend à tous les niveaux et groupes d'âge dans la société. Nous lisons dans Proverbe chapitre 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Version Louis II. L'instruction du peuple vient des familles, et la famille est le dépôt de la loi. C'est aussi pourquoi la loi est exigée d'être lue chaque année de sabbat. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 4, versets 7 à 9, « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Version Louis II. De la même manière, l'injonction est répétée pour la famille et les ménages. Comparez Proverbe 4, verset 10. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Version Louis II. Cet enseignement de la loi est alors fait tous les 7 ans, aussi en tant que nation. Voir Deutéronome 31, verset 10 à 13. Cette lecture agit en tant qu'un contrôle essentiel sur toute activité. La protection de l'environnement est aussi reliée avec les lois qui se rapportent à la famille et aux familles des animaux et à la longévité résultant de l'obéissance. Voir Deutéronome 22, verset 6 à 7. Ceci est applicable, que cela soit les animaux domestiques ou sauvages. Nous lisons dans Lévitique 22, verset 28. « Bœuf ou agneau, vous ne gorgerez pas un animal et son petit le même jour. » Version Louis II. Cela s'applique également à la cuisson de la viande d'un jeune animal dans le lait de sa mère. Ce mode spécifique de cuisson était interdit parce qu'il s'attaque au concept même de la famille, mais aussi parce qu'il semble qu'il était relié tant au culte de la fertilité qu'au culte du mystère. Nous lisons dans Exode chapitre 23, verset 19. « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Version Louis II. La structure entière de la loi doit être observée pour que l'individu et la famille survivent. Voir Deutéronome 4, verset 20. Nous lisons dans Deutéronome 5, verset 29. « Oh, si vous avez toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Version 8 secondes. Le commandement d'agir comme une nation devant Dieu s'applique aussi aux terres que le Seigneur vous donnera. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, verset 12 à 26. « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mout et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car je serai un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera, et il les mettra complètement en déroute, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux, tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Version 8 secondes. Ces commandements ont été donnés à Israël parce que la progéniture des Cananéens était maudite à cause de l'idolâtrie. La structure entière de la famille, de la nation et de la loi désignait le Messie, la famille étant comme les brebis de son troupeau. Nous lisons dans Jean, chapitre 10, versets 7 à 16. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Version 8 secondes. Donc, la structure entière de la famille et de la loi pointe vers une nation comme Israël sous Dieu, se tenant avec le Messie à leur tête. La désobéissance à la loi. La désobéissance dans la famille sous la loi est passible de mort. voir Deutéronome 21, versets 18 à 23, comme nous l'avons vu plus tôt. Ainsi, la peine de mort est infligée par les parents en premier lieu et infligée par les témoins en second lieu, voir Deutéronome 17, versets 6 à 7. Aucune personne ne peut être mise à mort s'il n'y a pas deux témoins. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 17, versets 6 à 7. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Version Louis II. La famille est établie sous la loi, et la prostitution et la sodomie sont interdites à la famille, et les profits venant de celle-ci sont interdits à la maison de Dieu. Aucune prostituée ni un sodomite, entre parenthèses, ni gain provenant de leur commerce, ne peut entrer dans le temple et le royaume de Dieu. Nous lisons dans Deutéronome 23, versets 17 à 18, « Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Version Louis II. La famille entière est commise à l'administration de la loi et de la peine de mort. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 10, « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Version Louis II. Le Messie nous a montré la vue correcte de la loi en ce que la loi est aussi brisée et pervertie par les traditions des pharisiens et des écoles rabbiniques. Ceci relève du même titre que les destructeurs de la loi. Nous lisons dans Marc chapitre 7, versets 6 à 13, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Version Louis II. Pour cette raison, Judas et Lévi ont été permis d'être maintenant détruits depuis des siècles, et ils n'entendent toujours pas les paroles du Dieu vivant, mais réduisent à rien les commandements par les traditions d'hommes, voir Deutéronome 28, versets 58 à 68. L'autorité dans la famille. L'autorité dans la famille est placée sous le Père, comme elle l'est dans la maison de Dieu. Pour cette raison, nous avons vu que le serment de l'homme est lié, mais celui de la femme est sujet au consentement de son mari. Le père, et après le mariage, le mari, peut annuler le serment de sa fille ou de sa femme si cela contredit son autorité et ses responsabilités. C'est une des raisons pour lesquelles Adam a aussi été tenu responsable pour les péchés d'Ève. Christ est responsable de nous présenter à Dieu sans tache ou défaut. Cela vient de la loi sur les offrandes. Nous lisons dans Lévitique 22, versets 19 à 20. Prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Version Louis II. Nous sommes les premiers fruits de la récolte de Dieu. Comme Christ était sans défaut, de même nous aussi nous devons l'être. Comme les épouses du fiancé, ayant blanchi nos robes dans le sang de l'agneau. Voir Daniel chapitre 11 verset 35, Apocalypse chapitre 3 verset 18, chapitre 6 verset 11, chapitre 7 verset 13 à 14, Apocalypse chapitre 15 verset 6 à 7, chapitre 19 verset 7 à 10. Toutes ces responsabilités sont placées dans la famille et avec les parents avant tout. De cette façon, Dieu est responsable de pourvoir pour ses enfants selon ses propres lois. Ainsi, tous ceux de l'armée sont soutenus dans son omniscience et omnipotence et dans sa volonté et son amour parfait. Un être qui ne connaît pas tout l'avenir ne peut pas être Dieu. Par conséquent, Dieu, étant un être omniscient, a pourvu pour ses enfants dans son amour parfait, représenté par la loi et les deux grands commandements. Comparez Nombre chapitre 30, verset 1 à 16 et l'étude de la brebis perdue et l'enfant prodigue. Étude numéro 199. C'est le chef de famille qui est investi de l'autorité. De là, les vœux de la femme peuvent être annulés par le chef du ménage lorsqu'il perçoit qu'ils sont en conflit avec les intérêts de la famille. Le silence est considéré comme la confirmation de la décision ou du contrat. Voir Nombre 30, verset 1 à 16 ci-dessus. Les serments faits à Dieu par l'intermédiaire de l'Église sont liés et sujets à la peine de mort lorsqu'ils sont faits en l'Esprit Saint, comme dans le cas d'Ananias et de sa femme Saphira, qui avaient tous les deux consenti au serment, voir Actes 5, verset 1 à 10. La responsabilité dans la famille. Les parents sont responsables de pourvoir pour la famille. Celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sa propre famille est pire qu'un infidèle. La responsabilité est conférée au père en premier lieu, puis à la mère en second lieu, puis aux grands-parents en troisième et ensuite sur la famille élargie ou l'Église. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5 verset 1 à 16. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Version Louis II. Le mot « petits-enfants » au verset 4 est le grec « ekgonos », qui est traduit « neveu » dans la King James Version. Au moment où ce texte a été traduit en anglais, il était courant d'utiliser le mot « neveu » en se référant à leurs petits-enfants. Comparé Shakespeare, Othello. La famille est le pourvoyeur, mais l'Église et la famille est la source d'assistance ultime. C'est la responsabilité des plus jeunes femmes de se marier et d'avoir une famille conformément à leur bénédiction. Le droit à la vie dans la famille. La responsabilité de protéger la vie des membres de la famille est conférée aux parents Et cette responsabilité est souvent assurée par Dieu, comme nous le voyons d'Exode 2, verset 1 à 10, où nous lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le Dieu de ce monde veut la vie des élus. Il a cherché à détruire Moïse et les enfants d'Israël. De la même manière, il a cherché à détruire le Messie. Voir Matthieu 2, verset 1 à 23. Il cherche toujours à détruire la nation et l'Église, qui est Israël. Voir Apocalypse 12, verset 13 à 18. C'est la responsabilité de la famille de protéger la vie de la nation. Dieu suscitera notre salut. Le Messie reviendra pour sauver ceux qui l'attendent avec empressement. D'ici là, l'Église est testée, éprouvée et raffinée dans le feu des persécutions. Tout enfant qui menace la vie d'un parent perd sa propre vie, telle que vue dans les textes ci-dessus. Cette question est aussi examinée dans l'étude de la loi et le sixième commandement, étude numéro 259. L'interaction sociale. L'individu est responsable de son comportement à l'intérieur des rapports avec la famille en premier lieu. Voir Exode 21, verset 15. Et autant dans la famille qu'à l'intérieur de la société en second lieu. Nous lisons dans Exode, chapitre 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Version Louis II. Nous lisons dans Lévitique chapitre 20, verset 9, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Version Louis II. Cette injonction est répétée une troisième fois pour accentuer son importance. Nous lisons dans Deutéronome 27, verset 16, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Version Louis II. L'âge doit être respecté. Nous lisons dans Lévitique 19, verset 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Version Louis II. La protection des étrangers. Les enfants de Jacob étaient 70 âmes. Sous Moïse, ces anciens ont représenté les fils de Jacob et le gouvernement d'Israël. À partir du Messie sont venus les 70, et les démons leur étaient soumis en tant qu'anciens de l'Église, qui est Israël spirituel et le résultat final du gouvernement de Dieu. Voir Exode 1, verset 1 à 22. Pour cette raison, les fils de Dieu sont persécutés par le Dieu de ce monde et son système. Leur protection est la récompense de Dieu, comme le voyons des sages-femmes en Égypte récompensées. La récompense pour la protection est aussi décrite dans la parabole des brebis et des boucs. Voir Matthieu 25, verset 31-46. La protection de la famille comme une entité géographique. La famille est la base du groupe tribal, qui est une structure de famille étendue. Les tribus forment ensuite la nation. Les tribus sont protégées dans leur terre, sous les lois de Dieu. La protection des tribus est inscrite dans Nombre, chapitre 27, versets 1 à 11, dans le récit concernant les filles de Tselophkhad. Tselophkhad mourut dans le désert, dans son propre péché, et n'eut pas de fils. Son héritage fut protégé et passa à ses filles, qui étaient ses héritières, mais elles ne purent pas se marier en dehors de la tribu. Cela reflète également la conversion et l'héritage des élus. L'héritage devait rester au sein de la famille et passer aux plus proches parents, et c'est une loi de jugement en Israël. Ainsi aussi, ceux qui ont un héritage devront se marier à l'intérieur de la tribu du père. La famille et la tribu sont protégées par ce moyen. Voir Nombre 36, versets 1 à 12. De cette façon, la famille, de la famille royale jusqu'à la plus humble, sera protégée et toutes les terres seront maintenues sous le système du jubilé. Voir Ézéchiel 46, versets 16 à 18. On ne doit rien prendre par oppression et la structure est toujours en vigueur. La protection des veuves et des orphelins. Dieu est le protecteur des sans défense et la vengeance est à Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. Version Louis II. L'Église est ainsi le dépôt de la responsabilité de la famille. Mariam avait quatre fils et un certain nombre de filles quand Christ a fait la déclaration suivante à Jean. Nous lisons dans Jean 19, verset 27, puis il dit aux disciples : Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Version Louis II. Les frères de Christ sont entrés dans l'Église et ont agi puissamment en tant qu'anciens de l'Église, mais cela n'a pas affecté le point exposé ici. Nous lisons dans Psaume 68, versets 5 à 6, « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux, les rebelles seuls habitent des lieux arides. » Version Louis II. Dieu défend la cause de la veuve et de l'orphelin. Comparé Ésaïe 10, versets 2 et suivants. Jérémie 49, verset 11. Par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, Dieu condamne avec force la pollution d'Israël. Dans cet élément, la nation est condamnée parce que les parents sont méprisés et parce qu'elle commet la fornication et la pollution spirituelle. Comparé Ézéchiel 22, verset 1 à 16. Comme résultat, Dieu va disperser Israël. Comparé Deutéronome chapitre 4, verset 27, chapitre 28, verset 25 et verset 64. Nous lisons dans Exode, chapitre 22, verset 21 à 24. Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges, et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Version Louis II. La protection de l'étranger et de l'ouvrier en tant que la famille de Dieu. La loi concernant l'oppression s'étend aux serviteurs embauchés libres et esclaves et aux étrangers. Nous lisons dans Lévitique chapitre 25, versets 14 à 17. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Version Louis II. Nous lisons dans Exode chapitre 23, verset 9, « Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Version Louis II. Nous n'avons qu'un seul Père et un seul Dieu nous a tous créés. Voir Malachie chapitre 2, verset 10. Dieu en tant que Père sauve les enfants d'Israël et les restaure. Comparé Ésaïe 49, verset 15 à 26. Même nos ennemis doivent être protégés de leur propre négligence. Voir Exode 23, verset 5. Aimez par conséquent l'étranger, car vous étiez vous-même des étrangers dans le pays d'Égypte. Voir Deutéronome 10, verset 19. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 10, verset 18 à 19. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, versets 33 à 34, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les nations idolâtres ne doivent pas exister, et elles doivent être exterminées du milieu des enfants d'Israël et des fils du Dieu vivant. Voir Deutéronome 7, versets 1 à 26. Ce n'est pas à cause de la justice d'Israël, mais à cause de l'injustice de ces nations qu'elles sont détruites devant Israël. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 9, versets 1 à 29. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes plus grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, « C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. » Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Car tu es un peuple à cour raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple couré. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je retournai et je descendis de la montagne, tout en feu, les deux tables de l'Alliance dans mes deux mains. Je regardai, voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa et à Kibroth-Hataava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès, Barnéa, en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. » Je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel Et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Version 8 secondes. Cette apparente contradiction dans l'intention de la loi est d'assurer le maintien de la famille et des relations sociales de la société fondées sur leur relation avec Dieu. L'idolâtrie doit être éliminée de la société. La loi familiale et le contrôle social par le système judiciaire. La loi familiale est une structure légale extensive en elle-même. Il s'ensuit de ces textes et de l'étude de la loi et du 7e commandement, étude numéro 260, que le divorce est permis, mais Dieu déteste le divorce. L'adultère est la raison du divorce et est la contrepartie physique de l'idolâtrie. Malachie a été envoyé à Juda parce que la nation avait commencé à introduire un culte étranger en Israël et s'est mariée avec les filles d'un dieu étranger. C'est pourquoi ils ont été finalement envoyés en captivité. Donc, le châtiment des individus est la responsabilité des parents. L'ultime pouvoir est parent et Dieu, qui punit la nation en tant que famille nationale. Voir Malachie chapitre 2, versets 10 à 17. Le divorce est permis aux gens à cause de la dureté de leur cœur et de leur mentalité non convertie, mais il ne doit pas en être ainsi avec les élus. En conséquence, il y a deux niveaux de mariage dans la société. Le premier est le mariage entre les non-baptisés, ou entre un élu et un non-baptisé, et le second est entre deux personnes dans la foi. À l'origine, cela apparaît que c'était l'intention de Dieu que l'homme n'ait qu'une femme, voir Genèse 2, verset 24, mais cela semble avoir été mis de côté par les patriarches avec le consentement de Dieu. La structure du mariage illustre la relation de l'individu et de la nation avec Dieu, et donc la fidélité est une caractéristique du sacrement du mariage. À partir de la Torah et des interprétations jusqu'à et incluant Christ, il y a plusieurs aspects qui nécessitent d'être clarifiés en rapport avec le 7e commandement. La restriction sur le nombre de femmes qu'un homme peut avoir parmi les nations dépend de son propre statut. Le Coran suit en grande partie la tradition rabbinique qui établit le nombre à 4. Entre parenthèses, certains rabbins l'étendent à 5 pour un homme ordinaire et à 18 pour le roi. Le Nouveau Testament fixe la limite à une femme pour les anciens, puisqu'aucun homme ne peut être un ancien s'il a plus d'une femme. Voir 1 Timothée 3, verset 2, Tite 1, verset 6. Les anciens devraient se marier, puisque le mariage est la responsabilité donnée à tous les hommes sous la charge donnée à Adam. Ainsi, un homme peut divorcer et se marier de nouveau avant d'entrer dans l'Église, mais ne doit pas se divorcer une fois qu'il fait partie de l'Église, excepté pour des raisons spécifiques. Celles-ci ont été détaillées par le Messie et sont examinées dans l'étude de la loi et le 7e commandement, étude numéro 260. La relation envers la famille se termine avec le mariage. C'est pourquoi le consentement des parents est nécessaire sous la loi de Dieu. Nous lisons dans Exode, chapitre 22, versets 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Version 8 secondes. Sous la loi, le consentement du père est nécessaire pour sa fille, même si elle est compromise. Les vœux du mariage cessent à la mort d'un des conjoints. Voir Matthieu 22, versets 29 à 30, Marc 12, versets 24 à 25. Les questions complexes du mariage et du divorce sont couvertes par les lois du 7e commandement. La famille est le matériau de construction de la nation et aussi du plan de Dieu. L'attaque sur l'institution du mariage est une attaque sur la famille et le plan de Dieu. Aucune personne ne peut être dans l'Église et négliger les lois du mariage et les devoirs de la famille. Toute vie naît de l'unité familiale et engendre la nation. Ainsi de même, le contrôle de la vie est conféré en premier lieu à la famille et ensuite à la nation. Le cinquième commandement pointe vers le Messie, qui agit en tant que notre Père éternel, sous son Père éternel, qui est le Dieu Très-Haut. Lui seul est immortel, et aucun homme ne l'a jamais vu ni ne peut le voir. Voir 1 Timothée 6, verset 16, ni entendre sa voix en aucun temps. Voir Jean 5, verset 37. Chaque Père prend la place du Messie, et sa femme prend la place de l'Église. Ils sont responsables devant Dieu pour leur charge. Le chef de chaque homme est Christ, et le chef de Christ est Dieu. Voir 1 Corinthiens 11, verset 3, Éphésiens 5, verset 23. Ton trône est un trône de Dieu. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes camarades. Voir Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9. Pour lui, nous sommes comme le chef éternel de notre famille et le prince de la paix. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de paternité. Voir Éphésiens 3, verset 14, et toutes sont sous le seul vrai Dieu, voir Jean 17, verset 3. Nous sommes les fiancés de Christ, et sous sa gouverne, nous enseignerons le monde en tant que notre famille, à la fois dans le système millénium et dans la seconde résurrection. Comparez Apocalypse 20, verset 1 à 15. Ce n'est seulement que par la compréhension que nous sommes exigés de devenir une famille sous Dieu, où Dieu agit en nous comme une extension de lui-même, pouvons-nous comprendre l'intention du deuxième grand commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous sommes destinés à devenir des dieux, nous tous, des fils du Dieu Très-Haut. Et les Écritures ne peuvent pas être anéanties, voir Jean 10, versets 34 à 35. Fin de la lecture de l'étude de la loi et du cinquième commandement, étude numéro 258.